gloire à toi, éternel notre Dieu, pour tous les bienfaits dont nous avons été l'objet. Voilà pourquoi, Père éternel, nous sommes dans la joie pour élever nos voix vers toi, Père. Nous sommes dans la joie, ô mon Dieu, Père, pour te glorifier. Nous sommes dans la joie pour t'honorer, parce que tu es digne. Tu es digne de nos louanges pour l'œuvre que tu as accomplie à Golgotha. Père, merci pour tes enfants qui sont ici. Merci, ô mon Dieu, Père éternel, pour les cantiques qui sont montés vers toi. C'était pour t'honorer, pas pour honorer un individu. Laisse que tout te soit au dû. Honneur et gloire te soient rendus maintenant, Père. L'heure d'écouter la parole est arrivée. Nous voudrions t'inviter, ô mon Dieu, Père éternel, pour que tu puisses éveiller nos oreilles, afin que nous puissions écouter comme écoutent les disciples, et que moi, que tu m'accordes une langue exercée, pour que je puisse, ô mon Dieu, Père, consoler le peuple abattu. Et le Saint-Esprit, maintenant, prenne le contrôle du travail. Nous voudrions, Père éternel, nous voudrions disparaître, ô mon Dieu, que toi, tu puisses apparaître devant la scène, parce que tu es la vedette de ce soir. Honneur et gloire te soient rendus, Père. Sois-nous favorables. Nous t'avons ainsi prié dans le précieux nom et suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ah, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes encore dans une grande joie ce soir parce que Dieu a voulu que nous puissions être ici. C'est une grande grâce pour nous. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous pendant toute la journée, n'est-ce pas? Donc, chaque chose, chaque petit détail de notre vie mérite que nous puissions penser à notre Dieu qui nous permet pour que nous puissions être encore ici et qui nous permet de faire des choses. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et nous sommes venus ici pour les rencontrer et pour l'écouter. Si nous sommes certains de ce Dieu-là, nous devons nous rendre compte qu'il est capable de répondre à toutes les questions qui passent dans notre esprit, qui nous dérangent. Il est prêt. Alléluia. Il est prêt ce soir, il est encore prêt. Parce que ses bontés et ses compassions ne sont pas épuisées et elles ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin pour ses enfants, n'est-ce pas?
Amen.
Alors, mes bien-aimés, je vous invite à vous lever. Nous allons lire dans deux textes pour d'abord les contextes de notre message de ce soir. Les deux textes que nous allons lire maintenant vont nous permettre d'avoir le contexte dans lequel nous allons évoluer ce soir. Alors, au moment où nous sommes en train de lire, mes bien-aimés, je vous demande d'avoir une attention particulière au moment de notre lecture. Alors, les deux textes que j'ai choisis qui vont introduire notre message de ce soir se trouvent dans Exode 33, le premier texte. Exode 33, versets 12 et 13. Et le deuxième texte, nous le retrouvons dans les livres de Genèse 3, verset 8. Mettez en tête ces deux textes, nous les lisons pour que nous puissions avoir le contexte de la prédication. Alléluia!
Amen.
Alors, lisons ces deux textes. Exode 33, versets 12 et 13. Lisons.
Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'est-ce que Moïse demande? Fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » C'est une prière de Moïse. Alléluia. Genèse. Genèse 3. Verset 8. Attention, c'est que nous sommes en train de lire. Genèse 3, verset 8. Nous lisons. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Dieu au milieu des arbres du jardin. Alléluia. Je ne vais pas vous retenir debout longtemps. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et qu'il puisse ajouter des bénédictions à ceux qui vont suivre. Alléluia. Très bien. De ce passage que nous venons de lire, je voudrais qu'on considère deux mots. Noah, tu lis Genèse 3, verset 8. Et toi, à ta place aussi, tu suis Noah. Je voudrais isoler un mot.
Oui. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu.
Jusque là, tu me dis comment est écrit ce mot-là. Épeler les lettres.
Éternel. Un.
Mot. Oh, voix.
Voix.
Oui.
V.
Oui.
O.
Oui.
I.
Oui.
X.
OK. Allons dans Exode. Verset 13. Exode 33, verset 13.
Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies.
Stop. Oui. J'isole encore le mot voix. Comment il est écrit?
B. O. I.
B.
O. I.
Oui.
E.
OK. Voilà.
S.
Ça, c'est au pluriel. Oui. Bon, singulier. On va faire de la grammaire, hein, Noah. Donc, tu vas te souvenir de ta grammaire. Très bien. Si, voix est au pluriel. Et pour cela, nous ne prenons pas en compte la lettre S. Ça va?
Oui.
Très bien. Ces deux mots vont nous permettre d'installer d'abord le décor de la prédication. Alléluia!
Amen!
Nous pouvons ouvrir le sens de ces deux mots. Nous avons appris à l'école, pas les néerlandophones, vous n'avez pas appris ça, mais les francophones. Alors, sœur Anne-Marie, ouvre les oreilles. Si je fais des bêtises, à la sortie, tu vas me reprendre. À À l'école, nous avons appris en grammaire que les mots de prononciation identique, comme ces deux mots que nous avons au tableau, voix et voix. Alléluia.
Amen.
Le nom de prononciation identique et de sens différent s'appelle homonyme. Alléluia.
Amen.
Vous êtes sûr?
Oui.
Mademoiselle Mbaya. Bien sûr? Bien sûr? Très bien. Donc, deux mots de prononciation identique, mais des sens différents, s'appellent homonymes. Voix avec X, quand nous ouvrons le sens de ces mots, Robert nous dit, voix V-O-I-X, ensemble des sons produits par les vibrations des cordes vocales.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Ça, c'est la voix. Quand Noah chante, c'est la voix. Il y a des sons qui sont produits par ces cordes vocales. Alléluia.
Amen.
C'est ça que nous entendons. V, O, I, E, Robert nous dit, espace à parcourir pour aller quelque part. Ça va?
Amen.
Espace à parcourir pour aller quelque part. Alors, vous savez, votre document, je l'exploite toujours. Au point 13, que Nestor avait intitulé « Vie chrétienne », à la question P, on pose la question « Comment reconnaître la voix de Dieu ?» De quelle voix il s'agit ici derrière? X. Vous avez posé la question. Comment reconnaître la voix de Dieu? Je me suis dit, OK, on va essayer d'étudier cette affaire. Alors, ce soir, on ne va pas commencer avec ça. Mais on va commencer avec voix, V-O-I-E. Le sujet de ce soir, sera intitulé Fabrice. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voix. Connaître la voix de Dieu. C'est le sujet de ce soir. Connaître la voix de Dieu.
Amen.
Très important. Vous avez posé la question de connaître la voix. Donc, quand Dieu parle, comment je peux connaître la voix de Dieu quand Dieu parle? À côté, il y a son homonyme. Alléluia.
Amen.
On prend d'abord son homonyme, la voix, espace, à parcourir pour aller quelque part. Alors, Mouta Moïse ici demande à Dieu que Dieu lui fasse connaître ses voies. Très important dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Tu ne peux pas être une personne indépendante avec tes visions. Tu dis, ça y est, et je marche. Et je marche. Non, monsieur. Dans la vie, il y a le bien et le mal. Il y a la voie du bien et la voie du mal, n'est-ce pas? C'est cela que Dieu demande aux enfants d'Israël. Choisissez aujourd'hui la voie du bien ou la voie du mal. Alléluia. Amen. Et pour chaque voie, il y a un maître. Il y a un maître qui montre le chemin. La voie du bien a aussi un maître. Alors, pour le sujet de ce soir, connaître la voie de Dieu, prenons acte. Acte 18, verset 26, Noah.
Il se mit...
Non, que tout le monde prenne d'abord acte 18, verset 26, comme ça, on voit la réalité. De quoi s'agit-il? Tout le monde a acte 18, verset 26? Tout le monde a acte 18, verset 26? Noah, tu peux lire.
Il se mit à parler librement dans la synagogue. Mm-hmm. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu.
Vous avez entendu? Et lui exposèrent plus. Comment?
Exactement.
Plus exactement la voix de Dieu. Quand Dieu t'appelle, tu as besoin d'une initiation pour connaître ou comprendre la voix de Dieu. Tu en as besoin. Acte 24, 14.
Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte.
Vous avez entendu? Je sers quoi, Noah?
Le Dieu de mes pères.
Selon?
La voie qu'ils appellent une secte.
Voilà. La voie qu'ils appellent une secte. C'est-à-dire le chemin qu'ils appellent
une secte.
Secte. Très bien. En particulier... Dans les livres des actes, comme nous venons de lire, le mot « voix » devient fréquemment synonyme d'évangile. Alléluia. Devient synonyme de la bonne nouvelle. C'est pour cela que Paul dit ici, je t'avoue, bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voix qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. C'est-à-dire la bonne nouvelle, l'évangile. Alléluia.
Amen.
Ce mot est appliqué à Jésus-Christ pour lui-même dans Jean 14, 6. Qu'est-ce qui est écrit, Noah?
Jésus lui dit,
oui,
je suis le chemin, la vérité et la vie.
Moi, je suis la voie. Alléluia. Moi, je suis la voie. Moi, je suis la voie. Il est descendu du ciel, il dit, c'est moi qui est la voie. Alléluia. La voie pour que tu puisses progresser dans ce qui est bien, c'est moi. Alléluia. Et la voix de Dieu, ou la voix du Seigneur Jésus, qui, dans l'Ancien Testament, désignait parfois le commandement de Dieu, s'applique à l'enseignement nouveau apporté par le Seigneur. Il est écrit, Matthieu 22, 16.
Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens.
Oui.
Qui dirent, maître, nous savons que tu es vrai.
Maître, hypocrite. Ils sont hypocrites. Ils posent une question pour pouvoir le piéger. Oui.
Maître, nous savons que tu es vrai. et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité.
Voilà. Et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Donc sa révélation, son évangile, voilà le véritable chemin qui conduit à Dieu. Mais ces gens, comme on a vu le dimanche, les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, tout ce monde était jaloux de lui à cause de la bonne nouvelle que lui apportait. Et cette bonne nouvelle était indigeste pour eux parce que ça contredisait leur façon d'être. Et ici, quand ces hérodiens arrivent, qu'est-ce qu'ils disent, les hérodiens? Hypocrites.
Maître,
oui.
Nous savons que tu es vrai.
Oui, voilà.
Et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité.
Voilà. Mais pourquoi vous voulez les livrer? Pourquoi est-ce que vous ne croyez pas à son évangile? Vous voyez? Ah, ils sont jaloux, envieux. La révélation de Christ, son évangile, voilà le véritable chemin qui conduit à Dieu. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux, mes frères et sœurs. Il n'y a qu'un chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans le monde, on dit tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas à Christ. Ah oui. Tout chemin mène à Rome, ok, vous allez arriver à Rome, mais tout chemin ne mène pas à Christ. Amen. Pour arriver à Christ, il te faut une révélation. Il faut qu'il se révèle à toi et qu'il te montre le chemin. Alors là, Noah, comme tu n'as pas posé cette question, comment reconnaître cette voie-là qui était incomplète? Ah, mais oui. Ce n'est pas Noah qui a posé la question. Hein. Je les taquine. Tu n'as pensé que à cette voie-là. Et ça, elle est importante dans la marche. Alléluia.
Oui.
Le chemin de Dieu.
Amen.
Alors maintenant, je veux que nous découvrions les ABC sur les voies de Dieu. Donc dans Exode 33:12, hein, c'est que Moïse dit, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Vous savez, autrefois, pour voyager, il n'y avait pas de GPS. Pour voyager, tu étais obligé d'étaler ta carte sur ta table et tu commences à tracer l'itinéraire. Trace l'itinéraire, tu as des signaux là. Il n'y avait pas de GPS il y a 30 ans. Alors maintenant, quant à Moïse, avant 2000 ans, je ne sais pas comment ces gens voyageaient, n'est-ce pas? Alors lui, il dit, Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Donc il demande à son GPS.
Amen.
Vous comprenez? Le GPS de Moïse, c'était Dieu.
Alléluia.
C'est pour cela qu'il nous a été prêché, mon ange marchera devant toi. Il dit, fais-moi connaître tes voies. Au verset 14, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alléluia. Dans le message, mon ange marchera devant toi. À la page 2, paragraphe 4, nous pouvons lire ceci, paragraphe 4 et 5. Et Dieu a toujours eu quelqu'un sur qui il peut mettre la main. Eh bien, Moïse était né un enfant particulier. Et Dieu avait ordonné qu'il devait amener les trois points de suspension, faire sortir Israël sous sa conduite. Et avant qu'il descende en Égypte, après son appel, quand il était au désert ce matin-là, paissant les brebis de Jéthro, son beau-père, il a vu un buisson en feu. Et je crois que c'était la première apparition de l'ange du Seigneur. Il était dans ces buissons ardents. Et alors, quand il a commissionné Moïse et qu'il lui a dit ce qu'il devait faire, il a marché devant lui, là, en Égypte. Vous savez ici? Dieu a marché devant lui en Égypte. C'est le GPS de tout chrétien. Amen. Et quand ils sont sortis, il était de nouveau sous la forme du feu, une colonne de feu. Et cette colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël était le même ange qui était dans le buisson ardent. C'était la même colonne de feu qui était dans ces buissons ardents. Et cette colonne de feu, ou cet ange, était l'ange de l'Alliance. Je crois que tous les ministres sont d'accord là-dessus, que c'était l'ange de l'Alliance. Si c'était l'ange de l'Alliance, alors c'était le Seigneur Jésus. C'était Dieu, le Saint-Esprit. Alors, à la page 9, paragraphe 20, nous pouvons lire ceci. Le problème est que nous essayons de défoncer l'ange. Laissez l'ange montrer le chemin et il nous conduira aux fontaines de l'eau vive et nous la donnera gratuitement. Croyez-vous cela? Qu'on le défense, ce n'est pas l'ange. Mon frère Noah, voilà pourquoi je t'ai dit tu as été incomplet. Fais-moi connaître tes voies. Alors là-dedans, c'est vraiment, on entre dans une certaine intimité. Dieu ne va pas te faire connaître ses voies comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non. Amen. Non. Il faut être dans un certain état d'esprit. Pas dans la distraction. Non. Il faut être dans un état d'esprit quelconque pour que le Seigneur commence à te montrer tes voies. Mon frère, ma soeur, il y a lieu de savoir que Dieu a ses voies. Alors, elles sont différentes aux nôtres, bien sûr, n'est-ce pas? Ésaïe 55, versets 8 à 9.
Car mes pensées ne sont pas vos pensées.
Oui.
Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel.
Voilà, on peut s'arrêter là. Ces voix sont différentes aux nôtres. Pour connaître ces voix, il faut être soumis, selon Jacques 4, 7. Sinon, ça ne vaudrait pas la peine. Il faut être soumis. Qu'est-ce que Jacques dit?
Soumettez-vous donc à Dieu.
Voilà. Voilà. Il faut être soumis à Dieu pour connaître ses voies. Sinon, tu seras un rebelle. Un rebelle invétéré. Tu prendras tes voies pour les voies du Seigneur. Mais il vient de le dire dans Ésaïe 55. Tes voies ne sont pas ses voies. Alléluia.
Amen.
Et ses pensées ne sont pas tes pensées. Ah, ton bonheur dans la marche chrétienne dépend de ta capacité à connaître les voies du Seigneur et à te plier. Alléluia. Connaître ses voies et à te plier. Quand il dit gauche, c'est gauche. Tu commences pas à dire, ah mais non, là à gauche, non, on va me repérer par mes anciens amis avec qui j'ai marché. Mais c'est par là que tu dois passer.
Alléluia.
Alléluia. Tu ne vas pas te trouver une voie, hein, pour que... Non, on doit te repérer. Si tu dois être humilié,
amen,
par tes anciens collègues, tu subiras l'humiliation pour la gloire de Dieu.
Alléluia.
Alléluia.
Amen.
Ah. Tu dois te plier à ces voies. Selon le psaume 81, versets 14 et 15. Très important. Psaume 81, verset 14, 15.
Oh, si mon peuple m'écoutait,
hein,
si Israël marchait dans mes voies.
Ah, donc, écoutez, c'est ça la soumission.
Alléluia.
Alléluia. Amen, amen. Si, bon, c'est une condition. Donc, le peuple, il est toujours compliqué, n'est-ce pas?
Oui.
Mais si mon peuple m'écoutait,
oui.
Donc ce soir encore, oui. Le Seigneur est en train de te parler, oui. De me parler.
Oui.
Si Albert m'écoutait, si Noah m'écoutait, qu'est-ce qui arriverait, Noah? Lis.
Si mon peuple m'écoutait,
oui.
Si Israël marchait dans mes voies,
oui.
En un instant, je confondrais leurs ennemis.
Tu as entendu?
Oui.
Tu as entendu?
Oui.
Ça, c'est la parole de Dieu. Mais le problème, tu n'écoutes pas. Comme je disais le dimanche. Tout ce qui t'arrive là,
oui.
L'état dans lequel tu es, parce que tu ne crois pas à la parole de Dieu. Alléluia.
Oui.
Le jour où tu croiras et que tu écouteras, tu mettras cela en pratique. Qu'est-ce que le Seigneur dit?
Il dit, en un instant, je confondrai leurs ennemis.
Voilà. Tes ennemis seront confondus en un instant. C'est la parole de Dieu. Tes ennemis seront confondus en un instant. Ça, c'est Dieu qui parle.
Oui.
Alléluia.
Amen.
C'est pour cela que nous venons écouter Dieu, car sa parole est éprouvée.
Amen.
Moi, je ne viendrai pas ici si cette parole n'était pas éprouvée. Cette parole, comme elle est éprouvée, elle me donne de l'assurance. Elle me donne la confiance. Elle me donne la certitude. Avez-vous déjà lu ou avez-vous déjà entendu la prédication « Soyez certains de Dieu ». Soyez certains de Dieu. Tu dois reconnaître que les voies de Dieu sont justes et véritables. Il est écrit Apocalypse 15, 3 Noah.
Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant.
Oui.
Tes voies sont justes et véritables, roi des nations.
Tu as entendu? Les voies de Dieu sont justes et véritables. Au moment où tu vas commencer à t'opposer, mais non, Seigneur, oh, pas là-bas, mais là, il y a Antoine, il y a Joseph, il y a Marie, ma Marie Godelive, mais avec qui je faisais les 300 coups. Oh, mais quand ils vont me voir, oh, mais ils vont se moquer de moi. Non, les voies de Dieu sont justes et véritables. Alléluia.
Amen.
Si Dieu te demande de passer par là,
oui.
Tu passeras par là et tu auras du succès.
Amen.
Alléluia.
Alléluia.
Amen. Attention, je reviens encore sur la volonté permissive. Vous avez vu Balaam?
Oui.
Dieu lui avait donné sa volonté parfaite. Mais il voulait quand même y aller parce qu'il était appâté par l'argent. Il en avait besoin, il enviait cet argent-là. Mais ça, ce n'est pas la voie de Dieu. Hein? C'est la volonté permissive de Dieu. Et quand tu es dans la volonté permissive de Dieu, sache qu'il y a un trou plus tard dans lequel tu tomberas. Ah, alors dans ce moment-là, tu dois revoir le film. Aïe. Si j'avais fait attention, c'est trop tard. Tu es dans le trou. Tu es dans le trou. Maintenant que nous venons de voir les ABC des voies de Dieu, je voudrais qu'on aborde à cet instant les règles, c'est-à-dire les principes sur les voies de Dieu. Les principes sur les voies de Dieu. Et c'est Ésaïe 55 qui va nous introduire dans ces principes. J'étais coupé, Noah, en lisant. Maintenant, tu lis. Ésaïe 55, versets 8 et 9. On va t'écouter.
Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Aie mes pensées au-dessus de vos pensées.
Tout le monde a entendu?
Amen.
Tu dois connaître ta place devant Dieu. Tu dois connaître ta place devant Dieu. Il vient de le dire clairement, n'est-ce pas? Si tu as écouté ce que Noah a lu, Dieu vient de le dire. Dieu vient de le dire clairement. Garde-toi de juger Dieu d'après tes normes qui sont humaines, faibles et limitées. Toi, tu vois les choses en partie, alors que Dieu les voit dans leur ensemble. Alléluia.
Amen.
Donc Dieu a devant lui tous les puzzles bien composés. Et toi, tu vas commencer à tâtonner, ta. Alors que lui, il a tous les puzzles devant lui.
Amen, amen.
Hein? Il sait, ici sera Hervé, ici sera Toussaint, ici sera Albert, ici sera Marie-Jeanne. Mais quand Marie-Jeanne se retrouve à côté d'Albert, Marie-Jeanne commence à bouder. Mais non, pas lui. Ah ben, lui, c'est un taureau, il charge toujours. Non, je veux avoir la paix. Pas avec lui. Non. Mais non, Dieu voit tout. Hein? Dieu a la vision globale. Hein? De tout son corps. Alléluia. Le corps de Christ, Dieu a toute la vision de ce corps. Comment le corps est assemblé. Alléluia. Ce n'est pas par tes humeurs. Ce n'est pas par tes sentiments. Désolé.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Première règle que tu dois connaître. Première règle que tu dois connaître est une note. Les voies de Dieu sont parfaites. Il n'y a rien à ajouter.
Amen.
Et ça, je suis en train d'insister. Parce que nous avons toujours des problèmes à ce niveau-là. Il y a des soucis, tu te plains. Et comme toi, tu ne fais pas attention à la voix de Dieu, Dieu t'a envoyé quelqu'un. Mais comme cette personne-là, tu ne la tolères pas, tu vas rester là. Tu vas rester là parce qu'il y a tes émotions, il y a tes sentiments, il y a tes pensées. Or, en ce moment-là, qu'est-ce qui va s'appliquer ? Philippiens 4, verset 8. Toujours. Mais tu ne lis pas. Je suis en train de répéter. Ça doit être dans nos têtes. Hein? Comme quand nous respirons. Philippiens 4, 8 est notre phare pour pouvoir marcher convenablement avec Dieu. Je disais, les voies de Dieu sont parfaites. Il n'y a rien à ajouter. 2 Samuel 22, verset 31, oui.
Les voies de Dieu sont parfaites.
Oui.
La parole de l'Éternel est éprouvée.
Ah.
Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui.
Tu as entendu? La parole de Dieu est éprouvée. Quand on dit que la parole de Dieu est éprouvée, oh, mon cher frère, ma chère sœur, tu dois bien comprendre ce que veut dire éprouver. Soumettre quelque chose à certaines expériences pour vérifier sa valeur, sa résistance. Alléluia. Se mettre à l'épreuve. Donc, la parole de Dieu, quand il est écrit, elle est éprouvée, c'est-à-dire que la parole de Dieu est solide à toute épreuve. Alléluia. La parole de Dieu est solide à toute épreuve. Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous avons entendu parler de Dieu confirme sa parole et Dieu tient à sa parole. Alléluia. Et c'est pour cela que nous avons entendu, arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée? Tout ce message-là, c'est pour montrer que la parole de Dieu est éprouvée. Alléluia. Il y a la solidité dans la parole de Dieu. Ce n'est pas par un coup de vent que tu viendras déboulonner un vrai fils de Dieu. Jamais. Parce qu'il se tient où? Il se tient où? Ah, voilà, qui est éprouvé. Mais la parole d'un homme, oh, je peux avaler ma parole, hein, les politiciens. Aujourd'hui, tu dis X, demain, ils changent d'avis. Ils changent d'avis, ah, mais oui, comprenez, hein, les circonstances ont changé avec le COVID, donc tout ce dont on a parlé, toutes les promesses qu'on a données, vous devez vraiment hein, oublier ça. Mais pas Dieu! Pas Dieu! Parce qu'il connaît, il connaît la fin d'une chose avant même que la chose soit. Vous comprenez ça? C'est pour cela qu'il est écrit, la parole de Dieu est éprouvée. Alléluia. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe. Dieu n'a pas une seule voix. Il en a plusieurs. Aïe, 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 aïe. Dieu n'a pas une seule voix, il en a plusieurs. 1 Corinthiens 12, versets 4 et 6. Suivez bien la lecture pour comprendre que Dieu n'a pas une seule voix.
Il y a diversité de dons, mais le même esprit.
Tu as entendu? Il commence par « il y a diversité », c'est-à-dire plusieurs expériences. Alléluia.
Amen.
Diversité dans la manière d'opérer de l'esprit. Alléluia.
Amen.
Diversité. Donc, ne limitez pas Dieu à une seule voix. Oui. Fais attention mon frère, ma soeur. Ne sois pas esclave de la manière qu'il a opéré chez ton voisin. Alléluia. Ne sois pas esclave de la manière dont Dieu a opéré chez ton voisin. Bon, comme il a envoyé des biscuits pour résoudre son problème de faim, à toi aussi il va envoyer des biscuits. Non. À toi, il va envoyer de la viande. Voilà. Selon ta disposition, Dieu va t'envoyer de la viande.
Oui.
Mais à ce monsieur-là, il avait besoin de biscuits. Voilà. Voilà. Si Dieu s'est révélé chez ton voisin en songe, n'attends pas qu'il se révèle aussi chez toi en songe. Tu es en train de faire fausse route. Attention. Et ça, dans l'expérience chrétienne, il y a beaucoup de gens qui se cassent la figure. Alléluia. Beaucoup de gens qui se cassent la figure. Ils n'arrivent pas à comprendre que Dieu a plusieurs voix. On va amplifier ces principes. Noah, tu veux te rendre à la gare du Nord.
Oui.
Il y a combien de possibilités? Et tu peux aussi prendre le train. Tu peux aussi prendre le bus. Voyez-vous? Voyez-vous? Et c'est comme cela que je disais pour les païens, on dit tout se mène à Rome. Hein? Donc, il se présente devant toi plusieurs voies pour que tu puisses arriver à la gare du Nord, n'est-ce pas? Dans les évangiles, le Seigneur guérit les aveugles en utilisant trois méthodes.
Oui.
Suivez bien.
Mm-hmm.
Marc 8, verset 23-25.
Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village.
Oui.
Puis lui mit de la salive sur les yeux.
Salive. Oui.
Lui imposa les mains.
Ah, imposition de mains.
Et lui demanda s'il voyait quelque chose.
OK. Fini?
Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent.
Mm-hmm.
Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux.
Oui.
Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri.
Première méthode.
Et vit tout distinctement.
Salive, imposition de main. N'est-ce pas?
Oui.
Vous avez suivi?
Amen.
Luc 18, verset 35 jusqu'à 43.
Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait.
Oui.
Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène.
Oui.
Et quand il se fut approché, il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. »
Voilà. Ici, chez Bartimée, il y a parole. Alléluia. Il parle seulement. Jean 9. Les 7 premiers versets.
Jésus vit en passant un aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui.
Oui.
Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre.
Ah, craché.
Et fit de la boue avec sa salive.
Et il y a la salive.
Puis il appliqua cette boue.
Plus boue.
Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle.
Ok.
Et lui dit...
Tu peux t'arrêter là. Vous voyez? Trois cas des aveugles. Le premier cas, il donne la solution. Salive, imposition de main. Le deuxième cas, il parle. Le troisième cas, il crache. Il crache. Il y a de la boue. Avec sa salive, il va appliquer aux yeux de cet aveugle nouveau-né. Vous comprenez? Non, de cet aveugle-né plutôt. Alléluia.
Amen.
Donc, il faut faire attention.
Oui.
Il faut faire attention. Il ne faut pas mettre Dieu dans une cage.
Oui.
Non. Dieu a plusieurs voix.
Oui.
Maintenant, au jour de la Pentecôte, au jour de la Pentecôte. Acte 2, les 4 premiers versets.
Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, lui apparurent, séparées les unes des autres. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparés les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
Ok, t'arrêtes là. Nous assistons à des choses surnaturelles, n'est-ce pas? Au jour de la Pentecôte. Il y a des choses surnaturelles. Alors maintenant, les incrédules ont donné leur interprétation. Alléluia. Que les disciples étaient ivre. Pierre va donner l'explication. Acte 2, 14 et 17.
Alors Pierre se présentant avec les onze et le voit la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront.
Ok. Vous avez entendu l'explication de Pierre? Hein? Est-ce que Pierre a-t-il prophétisé ces jours-là? Pierre a-t-il prophétisé ces jours-là? En réalité, pas dans le sens où l'entendait Joël. Alléluia. Pas dans le sens où entendait Joël. Ouvrez les oreilles. Écoutez très bien. Pas dans le sens où l'entendait Joël. Les 120 ont-ils prophétisé? Mais vous avez suivi la lecture. Est-ce que les 120 ont-ils prophétisé? Ou ont-ils eu des visions? Ah! Cela ne nous est pas dit. Hein? Cela ne nous est pas dit dans l'explication que donne Pierre. N'est-ce pas? Ont-ils eu des songes? Comment en aurait-il eu, car ils étaient tous éveillés? Hein? Ils étaient tous éveillés. Alors, que voulait dire Pierre en citant Joël, qui semble guère s'appliquer à la Pentecôte? Que voulait dire Pierre? Les voies de Dieu sont insondables. Alléluia. Amen. Donc ici, quand vous ne lisez pas la Bible avec des yeux spirituels, vous lisez vite et vous interprétez, vous faites des déductions comme vous voulez et il y a la mort dans le pot. C'est comme ça. Il n'y a rien de tout cela. Ce que Joël avait dit, il n'y a rien de tout cela à la Pentecôte. Contredisez-moi. Enfin, contredisez-moi. Ce que j'ai lu en étudiant, je me suis rendu compte que, oh mais comment? Comment? Voici ce que Joël a dit. Et voici l'explication de Pierre. Ça ne concorde pas. Ça ne concorde pas. Alors, que se passe-t-il? Quelle est l'explication de ce mystère? Suivez-moi bien. Écoutez la réponse. Il n'y a aucune erreur, mais harmonie parfaite. Il n'y a aucune erreur, c'est dans ta tête. Où il y aura erreur. Puisque si c'est le Saint-Esprit qui a poussé Joël à parler, et que le jour de la Pentecôte, Pierre est sous l'onction du Saint-Esprit, oui. Le Saint-Esprit est là pour veiller, donc il n'y aura jamais d'erreur. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y aura pas d'erreur. Amen. Observons bien que Pierre n'a pas dit ce que vous voyez et entendez est l'accomplissement de ce qui a été dit par le prophète Joël. Alléluia. Il n'a pas dit ça. Ce qu'il a dit, c'est ce qui arrive a été dit, c'est-à-dire a été prédit par le prophète Joël. Il ne s'agissait pas d'un accomplissement, mais d'une expérience du même ordre. Alléluia. D'une expérience du même ordre. Ce qui arrive a été, ça veut dire quoi? Ce qui arrive a été veut dire ce que vous voyez et entendez est du même ordre que ce qui a été dit. S'il s'agissait d'un accomplissement, chaque expérience se trouverait répétée. Alléluia. Si, je dis bien, si c'était un accomplissement, chaque expérience se trouverait répétée. Vision, songe, tout ça, on allait assister à ça. Alléluia. C'est que le Saint-Esprit souligne par Pierre, c'est la diversité de l'expérience. Alléluia. Il y a diversité de l'expérience. C'est comme cela que je t'ai fait lire Noah, 1 Corinthiens 12. Maintenant, tu lis le verset 4 jusqu'à 6.
Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune.
Oui.
En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse.
Oui.
À un autre, une parole de connaissance.
Oui.
Selon le même esprit.
Oui.
À un autre, la foi.
Vous voyez? Donc ici, comme je disais, le Saint-Esprit souligne par Pierre la diversité de l'expérience. Donc, quand on vous parle de l'effusion du Saint-Esprit, ah, il parle en langue, toi aussi tu dois parler en langue. C'est faux. Est-ce que tu me suis?
Oui.
C'est faux. Il y a diversité en matière d'expérience quand le Seigneur prend le contrôle de son job.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Pour que tu puisses comprendre que Dieu n'a pas une seule voix, il en a plusieurs quand Dieu opère. Ça va? Troisième règle. Dieu cache ses voies. Elles ne sont pas faciles à comprendre. Dieu cache ses voies. Elles ne sont pas faciles à comprendre. Genèse 3, versets 6 et 8.
La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable.
Genèse 3, 6, 8.
Et Genèse 3, oui.
Non. Oh là là. Non. Attends. J'ai mal noté. En Genèse 37. Oui. Genèse 37, oui.
Verset 6 à 8.
Oui.
Il leur dit, et donc Joseph, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles.
Tu avais entendu?
Oui.
Alors, Genèse 41, verset 37-43.
Ses paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres.
Ok. Donc à partir du moment où Joseph eut son songe et raconte son songe à ses frères, Et jusque là où nous sommes arrivés, que Pharaon va l'établir. Est-ce que Joseph savait comment il allait y arriver?
Non,
il ne
savait pas.
Hein? Souvent, nous voulons les résultats, mais nous fuyons les voies de Dieu. Alléluia. On peut faire rapidement la chronologie de la vie de Joseph. Hein. Du moment où il a eu son songe, il explique à ses frères. Et au moment où il s'est là établi, maître dans la maison de Pharaon, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, le jeune homme, il est né. Quand il est né, son père l'a eu dans sa vieillesse. Et son père l'aimait beaucoup. Et comme son père l'aimait beaucoup, c'était déjà une cause pour que ses frères puissent l'haïr. Parce que son père avait une affection très prononcée vis-à-vis de lui et lui a confectionné une robe. Beaucoup de couleurs, n'est-ce pas? Et au jour où monsieur vient raconter son songe à ses frères, oh là 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 là, la haine, hein, a eu une autre dimension. Et alors, ses frères, comme il haïssait, quand il sera envoyé pour aller les visiter là où ils étaient en train de faire paître le troupeau, ils ont comploté. Il dit, voilà, le songeur, il est en route. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les tuer, n'est-ce pas? Heureusement, son frère Ruben